Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Mercredi prochain, c'est la journée internationale sans diète, une initiative de l'organisme Équilibre. Une journée qui a comme objectif de dénoncer l'inefficacité, oui, des régimes amaigrissants et les dangers liés à l'obsession de la minceur. Et une journée également, si vous vous doutez de la pertinence, qui a réellement sa place lorsque l'on sait qu'il y a 53 % des femmes qui ressentent de la culpabilité lorsqu'elles mangent. Si on fait le calcul, là, c'est plus de la moitié des femmes qui ressentent ça. Et c'est assez préoccupant et en ce sens, Équilibre lancera mercredi 6 mai une campagne de sensibilisation afin de rappeler qu'on n'a pas besoin de se priver pour bien manger. En deuxième partie d'émission, Fanny Dagenais, nutritionniste et directrice générale d'Équilibre, sera là pour nous en parler davantage. Et puis, on se pose cette question. Être un homme en 2015, qu'est-ce que ça signifie? On le sait, on l'observe de plus en plus. Les hommes sont amenés à s'occuper des enfants, à s'occuper des tâches ménagères, à prendre leurs congés parentaux également. Les modèles familiaux changent, ça, on le sait. Mais qu'en est-il quand il est question de demander de l'aide, d'exprimer leurs émotions? Est-ce que ça, ça a réellement changé? Est-ce que c'est plus simple qu'avant? On en discute à l'instant avec Yvan Faneuf, thérapeute en relation d'aide, auteur du livre « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme » et conférencier. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Un plaisir de vous retrouver.
Bien, c'est ça, c'est la deuxième fois. Hein?
Oui,
ça me fait
oui.
plaisir aussi.
Évidemment, aujourd'hui, l'objectif de notre discussion, c'est pas de dresser un portrait dramatique de la masculinité au Québec, mais force est de constater qu'il y a plus de suicides chez les hommes au Québec. Ils se suicident trois fois plus. Ils décrochent davantage aussi. Certains d'entre eux vont dire qu'ils se sentent peut-être plus isolés, que le réseau est peut-être pas aussi présent que quand ils l'observent chez leur conjointe. Est-ce que ça vient de cette difficulté, à, parce que c'est votre spécialité, Yvan Faneuf, à exprimer ses émotions, à exprimer les difficultés que l'on vit, les défis auxquels on est confronté?
C'est une des conséquences, les émotions, la difficulté d'exprimer les émotions, des accueils, c'est une des conséquences. Bien sûr, au départ, être un homme, ça peut paraître cliché, mais c'est encore vrai. C'est être fort.
Ouais.
Faut être fort. Faut se montrer solide. C'est comme si on scinde en deux la personnalité. Tout ce qui est de l'ordre des émotions, de la solidité, de l'affirmation, de la colère, c'est valorisé, c'est accepté. Tout ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité, de la sensibilité, avoir besoin, c'est jugé, c'est rejeté. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs hommes, des groupes d'hommes. J'ai travaillé en violence conjugale, en prison, en centre de réadaptation. Puis ça fait 25 ans que je pratique. Là, j'ai fait une recherche aussi là, de 4 ans sur les émotions chez les hommes. Et au niveau du conditionnement, le jeune garçon qui commence à montrer ses émotions, sa sensibilité, oui, on peut, c'est cute, on peut accepter, mais il ne sera pas considéré. C'est pour ça, c'est de là mon titre. Il y a les gars. Puis il y a les vrais.
Oui, c'est ça.
Tu peux être un gars, mais tu fais pas partie des vrais si tu te montres vulnérable et sensible.
Et si tu pleures, si tu fais pas des sports un peu brusques, un peu violents, ben t'es pas un vrai.
Soit ça, ou si t'es pas rationnel, intellectuel ou en contrôle. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'étude que j'ai faite au niveau des masques, il y a des masques anti-émotivité, c'est-à-dire... Il ne faut pas avoir d'émotion, il faut être en contrôle toujours, très rationnel. Il y a une peur de l'émotion et de la souffrance. Et pour d'autres types de masques, on peut avoir une émotion. Il y a une seule qui est acceptée, c'est la colère.
Oui. Et les autres. C'est une émotion associée à la masculinité.
Oui, c'est ça. Plus t'es dur, plus t'es tough. Plus tu es agressif, affirmatif, plus tu démontres de pouvoir, qui est une des caractéristiques là, de la virilité, plus tu es un homme. Et c'est pas dit nécessairement clairement comme ça, mais en gang, en groupe, en société, c'est plus valorisé. Puis moi, je me rappelle, à l'école, les garçons les plus vulnérables s'attiraient le plus de violence entre les gars.
Ouais.
Parce que nous-mêmes, on rejette notre vulnérabilité, notre sensibilité. Un autre gars qui se montre vulnérable et sensible, bien, il va faire rire de lui.
Mm. Et bien sûr, on va y revenir à ces masques que portent les hommes et qui peuvent nuire à l'expression de leur émotivité, vulnérabilité, mais je veux revenir à la façon dont on éduque les garçons, parce que j'ai l'impression que ces modèles-là, qui sont peut-être un peu erronés, ça part de l'enfance.
Oui, oui, tout à fait, ça part de l'éducation. C'est dur pour un autre homme de transmettre ce qu'il n'a pas eu à un autre garçon. T'sais, on veut bien être d'accord avec le discours. Oui, vas-y, pleure, dis ce que tu vis, ce que tu penses. Mais ça fait réagir pareil. T'sais. Et le jeune garçon qui est en situation vulnérable, il a besoin de l'approbation, de la reconnaissance, le saisit rapidement. Et s'il veut faire partie, s'il veut être considéré comme un vrai gars, il saisit rapidement qu'il faut qu'il mette de côté certaines émotions. C'est là où je disais tout à l'heure être scindé en deux, rejeter une partie de ses émotions. La vulnérabilité, en fait, c'est avoir peur, c'est avoir de la peine et c'est avoir besoin. Donc ça, c'est mis de côté. Puis, tu sais, une des premières... Je suis un gars, moi aussi. Si j'ai travaillé ça, c'est parce que moi-même, j'ai vu comment ça me nuisait de ne pas accueillir cette partie-là de moi. Avoir peur, c'est simplement humain. Avoir de la peine, c'est humain. Mais j'ai eu de la résistance à dire, pourquoi j'accueillerais ça? J'aime bien mieux quand je m'arrête pas à ça. L'émotion, c'est un émetteur.
Oui.
C'est l'émetteur de l'identité. C'est l'émetteur en profondeur de qui tu es. Si tu coupes l'émetteur parce que tu veux paraître fort, tu perds une partie importante de la connaissance de toi.
Oui, c'est ça, du contact avec soi-même.
Oui. Si tu as peur, c'est pas pour rien. La peur, premièrement, c'est l'émotion la plus rejetée par l'homme, par le gars. Avoir peur, c'est ce qu'il y a de plus humiliant. Tu dis pas ça que tu as peur. T'sais, je le sais, je l'ai expérimenté souvent. T'sais. Mais la peur, c'est une des émotions les plus brillantes qu'il n'y a pas. T'as pas peur pour rien. Le danger avec la peur, c'est pas la peur, c'est l'imaginaire négatif souvent qui nous amène en dehors de la réalité.
Et qui nous freine.
C'est qui nous terrorise. Mais la peur, c'est brillant. T'as pas peur pour rien. Et quand t'as peur, c'est parce que t'es pas prêt, parce que tu fais face à un obstacle peut-être trop gros, parce que t'as besoin de soutien, t'as besoin d'aide. Ça parle beaucoup. Mais si pour toi avoir peur, c'est paraître faible, c'est de pas être un vrai gars, c'est humiliant, tu tasses ça et tu perds une partie importante de l'écoute de toi pour avancer.
Est-ce que vulnérabilité et virilité peuvent rimer ensemble?
Habituellement, non. Virilité. Bien, tu sais, je veux dire, distinguer une chose. La virilité, c'est bien. La virilité, c'est la manifestation de l'identité masculine. Tu sais, certains traits de virilité, puis on n'a pas à enlever ça, puis à cacher ça, ça a sa place. Moi, là où ça devient un problème, c'est quand tu as une blessure au niveau de l'identité. Quand tu t'es fait ridiculiser parce qu'on considérait que tu n'étais pas assez fort, tu n'étais pas assez un gars, et que tu as commencé à développer un masque de virilité, à développer une attitude fausse qui n'est pas toi, qui déroute de toi. Là, c'est problème. Pour montrer que tu es plus viril que tu es, en fait, il n'y a pas d'échelle. Là. Le problème, c'est que ça crée une échelle. Comme s'il fallait être plus viril ou moins, ou plutôt qu'être toi. C'est ça qui est problématique. Donc, le gars rejette qui il est pour essayer de se montrer plus viril, puis il s'éloigne de qui il est. Moi, quand j'étudiais à l'université, je me rappelle d'un professeur qui expliquait la dépression comme étant une courbe qu'on s'est éloigné de soi. Et un jour, ça passe plus. Ça craque, il arrive une maladie, il arrive un échec, parce que tu es rendu trop loin de toi. Il faut que la courbe revienne vers ce que tu es vraiment. Tu ne peux pas fonctionner en dehors de ce que tu es.
Oui.
Tu vas t'attirer des souffrances.
Mais Yvan, pour revenir à cette identité masculine que l'on associe toujours, et on le dit depuis tantôt, à être fort, à être stable,
à ne pas montrer de virilité.
Mais est-ce que ça peut être autre chose, l'identité masculine?
Excuse-moi, qu'est-ce que
Si on veut pouvoir exprimer aux gens qui nous écoutent toutes les panoplies de couleurs que ça peut être un homme,
comment on sort de ces mythes-là,
comment on sort de ces préjugés-là?
Un des moyens que moi j'ai constaté le plus puissant à l'homme pour récupérer la globalité, parce que c'est ça le but de mon travail, C'est d'être un gars, mais récupérer la globalité de ce que tu es. Autant la partie vulnérable, sensible qui te sert, que tu as besoin, que la partie forte, tu es fort aussi. Tu as un espace où tu es fort. Ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir d'autres gars qui le font. C'est des modèles. Tu sais, moi, je le dis aux femmes, votre volonté de faire parler le gars est très là, puis je comprends, est légitime, même si ça vous fait souffrir qu'il ne parle pas. Mais le silence des hommes, il ne se défera pas par les femmes. Parce que quand un autre gars voit, ou un garçon qui voit sa mère qui dit « Vas-y, parle-moi », le petit gars, ce qu'il comprend, c'est s'il parle puis il se montre sensible, bien, il est comme les femmes.
Ah oui.
C'est s'il voit son père parler, s'il voit d'autres hommes qui considèrent comme étant des vrais gars, des hommes, parler d'eux, là, pour lui, il n'y a plus de menace de perdre son identité parce qu'il voit un modèle de gars qui est un gars, qui est un vrai gars, puis qui parle de lui en même temps. Donc là, il est rassuré. Il est rassuré qu'il ne perdra pas son identité et il va le faire. Puis on n'a pas besoin de lui dire de parler parce que, tu sais, ce principe-là, c'est un besoin essentiel de l'être humain, c'est le besoin de liberté. Tout le monde a soif de liberté. Donc s'il voit un autre gars être vrai, puis moi, je l'ai expérimenté souvent. Moi, j'ai joué au football pendant des années. J'étais entraîneur de football. J'ai fait du karaté de combat. Et je me rappelle, à un moment donné, au cours d'un cours de karaté, le professeur voulait que je me batte contre un autre gars. Puis je lui ai dit, non, je n'y vais pas. T'sais. Et dit, là, il me dit, qu'est-ce que c'est? As-tu peur? Il voulait me piquer. Et j'ai dit oui. Ben oui, j'ai peur, certain. T'sais. Puis je parlais de moi un peu plus parce que c'était tous des gars. Et lentement, les gars ont commencé à venir
à
se livrer à moi. Parce qu'il me considérait comme... J'avais l'air d'un gars, un vrai gars, puis qui parle de ses peurs. Et c'est impressionnant tout ce que ces gars-là vivaient puis qu'ils avaient besoin de parler d'eux puis qu'ils l'ont fait.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Ifanov, parce que je lisais ce commentaire d'un homme qui exprime son isolement parce qu'il est en congé parental et qui dit, ben, il n'y a pas de cardio-poussette encore pour les hommes. Pourtant, de plus en plus, nous, on les prend ces congés-là, on est avec nos enfants, on reste à la maison avec eux, mais ils sont où les réseaux d'hommes? Et il disait exactement ça, ça doit passer par les hommes, et c'est pas les femmes qui vont nous créer ces réseaux-là, c'est entre nous que l'on doit s'appuyer. Et il dénonçait aussi le fait que pour qu'une gang de chums, là, comme on les appelle, se mobilise quand ça va pas pour un ami, ça en prend beaucoup, contrairement aux femmes qui ont peut-être les réflexes un petit peu plus aiguisés
Ben, moi, je constate que ça se développe de plus en plus. C'est quand même, il faut souligner le travail de Guy Corneau, là, avec les réseaux Hommes Québec, ça a donné tout un coup de main. Puis il y en a encore, moi, j'entends parler de mouvements de gars. C'est pas le réflexe naturel. Tu sais, moi, je reçois des gars quand ils vivent des épreuves, surtout une rupture amoureuse, là, comment ils sont dévastés. Ils ne savent pas quoi faire. Puis ils viennent me voir, puis je les encourage à parler, à ouvrir ailleurs. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est... D'un, ils ne veulent pas sentir leur souffrance. De deux, ils ont peur de donner du pouvoir aux autres de se montrer vulnérables. Donc, ça devient la seule place où ils parlent. Mais ça change. Ça change, l'encourage à le faire. Puis une chose à dire à un gars quand il se monte, là, c'est dire qu'il est fort. C'est pas dire, ah, tu sais, t'es vulnérable. Je te trouve fort. Je te trouve fort de faire ça. Puis c'est vrai que ça demande beaucoup de force pour se montrer vulnérable à un gars parce qu'il va à l'inverse de son fonctionnement puis de son habitude. Moi, j'ai souvent vu ça, des femmes qui étaient contentes. Le gars venait de s'ouvrir, venait de parler de lui. Et le gars, lui, n'est pas content.
Non.
Parce qu'il vient de s'humilier en parlant de sa vulnérabilité, puis de ses peines, puis de ses peurs. Il n'a pas trouvé ça agréable.
Mais c'est de le valoriser comme si c'était un acte de courage.
C'est un acte de courage parce qu'il va à l'inverse de sa peur. La plus grande peur, c'est de s'humilier. Tu sais, les Américains parlent de ça, la honte reliée à vulnérabilité chez les hommes quand ils se montrent vulnérables, justement. Ça demande du courage d'aller à l'inverse de la peur, de l'humiliation et de la honte. C'est un acte de courage et moi, je le reconnais comme ça.
Dans ce livre que vous avez écrit, « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme », vous parlez de ces masques-là. Il y en a plusieurs. Il y en a 12. Différentes catégories. Les masques d'anti-virilité, les masques d'anti-émotivité, les masques de dureté. Ils se créent comment, ces masques?
Comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, dépendamment du milieu, ben, quand même, socialement, il y a certaines lignes, là, comme les gars, on est valorisé en étant rationnel, intellectuel, ce qui est très bien, c'est une force, mais au détriment de l'émotion, en cachant l'émotion, c'est valorisé. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue, d'où on vient. Et c'est pas pour culpabiliser nos parents. Moi, mon père, c'était un bon papa, mais c'est un homme qui valorisait le rationnel beaucoup. Puis si on était émotif, ben il disait, bon, tu étais comme ta mère, là, tu sais. Je veux pas être comme ma mère, je veux être comme toi. Ça s'est construit avec tous ces messages-là. Puis moi, ce que j'ai remarqué, puis j'ai fait ressortir, les messages passent à l'enfance parce qu'on est en état de vulnérabilité, on a besoin de notre entourage pour survivre.
Ouais.
Et à l'adolescence, ils se cristallisent dans les gangs, dans les groupes. Le jeune qui ressort quand même à montrer sa vulnérabilité va se faire rabrouer, va se faire dire des commentaires et à un moment donné, au cours de l'adolescence, là, ça se ferme. C'est comme le bouchon qui se ferme, c'est terminé, j'ai compris, là, je mets ça de côté. Puis,
mais est-ce que c'est possible de vivre sans aucun de ces masques-là? Est-ce qu'ils peuvent servir? Est-ce qu'ils ont certains bienfaits parfois?
Bien, on va détraumatiser la chose. On a tous des masques. Un masque, c'est quoi? C'est quand on ne montre pas extérieurement ce qu'on ressent intérieurement. On fait tout ça, puis ce n'est pas vraiment grave. Là, l'idée, c'est de choisir les moments où est-ce que là, oups, là, c'est nuisible. Dans mes relations importantes, c'est nuisible. À l'écoute de moi, c'est nuisible. Et souvent, ce n'est pas conscient. T'sais, il y a un travail qui demande de prendre conscience de ça. Si, par exemple, je vais dans un milieu de travail puis je suis pas à l'aise de parler de moi puis j'en parle pas puis je dis non, ça va, c'est pas un masque, ça, c'est un mécanisme de protection. Je me sens pas sécure avec cet entourage-là. Je décide de pas en parler, c'est pas un masque. Et whoop, il y a une occasion, quelqu'un se rouvre, j'en profite pour dire vraiment comment je vais. Ça, c'est pas un masque. Un masque, c'est quand je fonctionne sur la peur et que je suis pas toujours conscient de ce que je mets de côté, que j'écoute pas pour présenter autre chose. Et là, il y a des conséquences. Comme par exemple, les masques de douceur, là, c'est souvent des hommes qui ont entendu beaucoup parler négativement des hommes. Pour eux, être un homme, c'est faire partie de la mauvaise équipe, là. Les hommes sont responsables de tous les crimes mondiaux, puis ils veulent pas être associés à ça. Bien, ils s'amputent de leur affirmation.
Et ce qui n'est pas mieux, oui.
Non, c'est ça.
Et quand on s'éloigne, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, quand on s'éloigne de soi-même, c'est là qu'on déclenche les mécanismes de dépression aussi.
Là, dans ça, c'est pas ma spécialité. Je faisais référence à un professeur d'université qui nous avait expliqué ça, que si ta vie est basée sur un personnage, si ta vie est basée sur l'apparence que tu veux donner, plutôt que ce qui tu es vraiment, tu t'éloignes de toi. C'est pas possible, là. La vie peut pas être belle si tu t'éloignes de toi, si tu t'éloignes de tes besoins, si tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Il va arriver quelque chose, ça peut pas fonctionner de même. Guy Corneau en parlait aussi, que souvent, les épreuves, ce que ça fait... Les gens qui sortent d'une épreuve, là, c'est fascinant quand est-ce qu'on sait qu'ils sont sortis de là. C'est quand ils ont dit « là, j'ai compris
».
Ils ont appris une leçon sur eux à ne plus oublier, puis qu'ils vont respecter, puis c'est le respect de soi, de quelque chose qu'ils ne respectaient pas. Là, on sait qu'ils sont sortis.
En terminant, Yvan Faneuf, qu'est-ce que l'on dit aux hommes pour les inviter à apprendre à prendre contact avec eux-mêmes et à s'exprimer. Et si ça ne passe pas par les femmes, ça doit passer par les hommes. Alors, de quelle façon on s'adresse à eux et qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Bien, moi, souvent, ce que je dis, puis c'est drôle, hein, je me fais souvent poser cette question-là, puis tout le monde connaît la réponse, mais peu l'applique. La meilleure façon d'inviter quelqu'un à être vrai, c'est toi d'être vrai. C'est pas... Mais, tu sais, tout à l'heure, on parlait, là, hors d'onde, de... les hommes en 2015. Moi, ce que je constate et qui est un problème, c'est qu'on culpabilise beaucoup les gars. Comme étant, ils parlent pas. Puis moi, c'est fascinant le nombre de femmes qui me disent, ah, moi, mon homme parle jamais, puis il s'exprime pas. Puis là, ils viennent, ils sont devant moi, là, ils parlent.
Ouais.
Ils parlent d'eux avec sensibilité. En fait, ils ont peur. Ils ont peur de se faire culpabiliser, ils ont peur d'être rejetés, abandonnés. Fait qu'avec leur femme, ils font attention. Puis d'avance, la femme prend considération qu'il n'a pas le taux, c'est elle qui l'a. Elle supériorise relationnellement. Fait que le gars, il dit, c'est correct, je laisse faire, j'abandonne parce qu'il est culpabilisé.
Donc, d'être vrai soi-même.
Cesser de le critiquer, le trouver courageux, puis nous-mêmes être vrais sans culpabiliser. Puis qu'il y a d'autres gars qui continuent, d'autres groupes d'hommes qui existent pour encourager les gars, puis il y en existe aussi, des gars.
et que l'on continue à mettre de l'avant des modèles positifs, évidemment. Oui. Yvan Faneuf, vous êtes thérapeute en relation d'aide, auteur de ce livre « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme » et conférencier également. www.yvanfaneuf.com. Merci beaucoup.
Merci à toi, ça m'a fait plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Fanny Dagenet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes nutritionniste et directrice générale d'Équilibre. Et ce mercredi, 6 mai, c'est la Journée internationale sans diète. L'objectif de cette journée-là, c'est bien sûr de sensibiliser la population à la privation et également au danger de la culpabilité. Parce que ce que vous voulez mentionner à travers cette journée-là et à travers la campagne de sensibilisation, c'est que ce sont des pièges à éviter.
Oui, tout à fait. En fait, la thématique de la campagne de cette année a vraiment été inspirée par les résultats d'un sondage qui a été mené par le magazine Elle Québec auprès de 2300 Québécoises qui révélait que 40% des femmes disaient avoir déjà terminé un repas, avoir diminué leur portion, même si elles avaient encore faim, dans le but de contrôler leur silhouette, et que 31% des femmes croyaient que bien manger impliquait de se priver des aliments qu'elles aimaient. Alors, c'est vraiment ces données-là qui nous ont inspiré la thématique de cette année, qui est « Il ne faut pas se priver pour bien manger ».
Oui, et puis votre campagne est quand même assez révélatrice. On y voit des affiches avec des morceaux de chocolat, avec des chips également. Donc, de dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits, en fait, et c'est vraiment de se reconnecter avec nos signaux de satiété.
Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on voudrait que la population comprennent finalement, parce que malheureusement, bien manger, c'est devenu synonyme de privation pour beaucoup de gens. Et tant que bien manger, ce sera synonyme d'avoir faim, synonyme de manger des aliments qui ne goûtent pas bon, eh bien, ce sera toujours difficile pour les gens d'adopter une saine alimentation. Ce sera toujours un obstacle important. Donc, on veut vraiment changer cette perception-là.
Mais Fanny Dagenet, ça veut dire quoi, bien manger, sans se priver concrètement?
Bien, en fait, la première des choses, c'est qu'il faut absolument éviter les interdits. Donc, il y a des études scientifiques qui le démontrent. Le fait de se priver d'un aliment fait juste nous amener à en manger en quantité supérieure parce qu'on ne peut pas se priver toute notre vie. Et inévitablement, quand on se prive d'un aliment qu'on a vraiment envie de manger, bien, on se met à y penser constamment. Oui. Et le jour où on va finalement céder, parce qu'inévitablement, ça va arriver, bien, on n'éprouvera pas le besoin d'en manger une portion normale. On va probablement vouloir manger, si c'est un biscuit, toute la rangée de biscuits. Si c'est le sac de chips, peut-être de voir le fond du sac, comme on dit. Donc, vraiment d'éviter les interdits. Tous les aliments ont leur place dans l'alimentation. L'idée, c'est de trouver un équilibre beaucoup plus que la perfection. Ça, c'est peut-être un autre concept aussi qu'on voudrait que les gens retiennent. Ça donne rien de viser la perfection, de se dire tout ce que je vais manger, ça va être optimal du point de vue nutritionnel, parce que le plaisir, ça fait partie de l'alimentation et ça fait partie aussi de la saine alimentation. Ce que les gens oublient souvent, c'est que le fait de ne pas être satisfait quand on termine un repas ou quand on termine une collation, ça nous amène à manger plus. Parce qu'inévitablement, par exemple, je pense aux gens qui vont manger du chocolat, mais en se sentant très, très coupable. bien, ce qui va arriver, c'est que les gens vont croquer très rapidement le chocolat, ils vont l'avaler presque tout rond pour en finir avec ce fichu sentiment de culpabilité. Mais ça, en fait, ce que ça nous amène à faire, c'est en manger des quantités beaucoup plus grandes parce que on n'a pas le temps de savourer, de prendre conscience des saveurs, des arômes du morceau de chocolat en question, alors que si on prenait le temps de le déguster, de le laisser fondre dans notre bouche, de profiter des saveurs, bien, on se rendrait compte, au bout du compte, qu'on n'éprouve pas le besoin d'en manger toute une boîte.
Oui. Et justement, vous l'expliquez bien dans un petit dépliant que j'ai reçu, le cycle de la privation. Justement, quand on abuse, peut-être quand on mange en trop grande quantité de ce type d'aliment, bien, on se sent coupable et c'est là qu'on bannit cet aliment dans notre régime alimentaire et bien, de là la privation. Mais en fait, le cycle se poursuit.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un cycle qu'il faut éviter parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas nous aider à gérer notre poids. Au contraire, ça va plutôt nous mener vers des excès alimentaires. Donc, il faut redonner la place qui leur revient à ces aliments-là, ne pas les catégoriser comme des aliments interdits ou des aliments qu'il faut absolument éviter, mais vraiment de leur redonner la place qui leur revient, de manger de façon variée et surtout de profiter des saveurs de chaque repas. Et tantôt, je parlais du morceau de chocolat, mais à la rigueur, il faut aussi profiter des saveurs des autres types d'aliments, les fruits, les légumes, trouver des façons de les apprêter qui vont nous rendre satisfaits pour qu'on termine notre repas puis qu'on se trouve satisfait tant au niveau de l'appétit qu'au niveau gustatif.
Fanny, la Journée internationale sans diète, c'est aussi un moment de rappeler que les régimes amaigrissants sont souvent inefficaces et les chiffres sont assez révélateurs en ce sens aussi.
Oui, tout à fait. On dit que près de 95 % des gens qui suivent un régime amaigrissant vont reprendre le poids perdu dans l'année qui va suivre l'arrêt du régime. Donc, vraiment, les régimes restrictifs, ça ne fonctionne pas. Ça peut amener justement les gens à tomber dans le cycle de la privation qu'on a décrit tout à l'heure. Ça amène beaucoup de frustration alimentaire aussi. Et c'est à éviter finalement, donc vraiment de se tourner plutôt vers une alimentation qui est équilibrée, qui est saine, se tourner également vers l'écoute des signaux de faim de satiété au niveau de la quantité d'aliments à manger, plutôt que de se fier à des règles préétablies par des diètes comme des calculs de points ou des calculs de calories. Notre corps n'a pas été conçu pour se nourrir de cette façon-là.
Et bien sûr, ces régimes-là en répétition, ça amène vers une obsession de la minceur que vous dénoncez également.
Oui, tout à fait. Les pressions sont très, très fortes dans notre société pour se conformer à des idéaux de beauté qui sont irréalistes, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et bien entendu, ça nous amène à développer une relation qui est difficile avec les aliments, mais aussi avec notre corps. Et dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent s'accepter comme ils sont, qu'ils puissent profiter de la vie en pensant un peu moins à leur poids, un peu moins aux objectifs de minceur qu'on voit par exemple sur les panneaux publicitaires et qu'ils puissent également retrouver une relation positive avec les aliments, avec la nourriture.
Mm-hmm. Et de pouvoir le faire, bien sûr, en bonne compagnie, en famille, avec les enfants. Ce sont, bien sûr, de belles habitudes à transmettre aux enfants.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le but de la campagne. Il y a plusieurs outils qui ont été conçus pour aider les gens à atteindre ces objectifs-là. Oui. Donc, les gens peuvent se rendre au site Internet équilibre.ca/JISD, donc pour Journée internationale sans diète.
Merci Fanny. On mettra ce site-là sur notre site, bien sûr, www.équilibre.ca. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler, Fanny Dagenais, nutritionniste et directrice générale d'Équilibre.
Merci.
Au plaisir. Jean-Sébastien Laliberté, Marianne Paquette, on vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.